Vous écoutez, on lit pour vous.
Boire du café et du thé protégerait de la démence tout au long de la vie. Un texte de Coralie Lemke, paru le 16 février 2026 dans Science et Avenir. La caféine, issue du thé ou du café, ralentirait le déclin cognitif et l'apparition de la démence, selon la plus large étude menée à ce sujet. Et ce, même chez les personnes porteuses de variants génétiques augmentant de 2 ou 3 fois le risque de démence. Peut-être lisez-vous cet article avec une tasse de café à la main, comme 81% des Français qui en boivent quotidiennement. Il se situe ainsi devant le thé, consommé par environ 2/3 de la population. Il s'agit de la 2e boisson la plus bue à travers le monde, après l'eau. Et si, en plus du petit regain d'énergie qu'elle nous apporte, les boissons caféinées nous protégeaient de la démence? C'est ce qu'indiquent des travaux publiés dans le Journal of the American Association, JAMA. Le lien entre la consommation de caféine et des effets sur la cognition est étudié depuis longtemps. Mais jusqu'à présent, il était impossible de tirer des conclusions claires. La plupart des études peinent à différencier le véritable café du café décaféiné. Cette fois, des premières tendances commencent à apparaître, et cela tient à la façon dont l'étude a été construite. Premier facteur crucial, les participants ont été suivis sur un temps long, jusqu'à 43 ans pour certains. Un paramètre crucial pour identifier des changements cognitifs graduels ainsi que le développement d'une démence au fil des décennies. Ajouté à cela, le nombre de participants s'avère particulièrement élevé, avec 130 000 individus, ce qui rend les résultats plus fiables. C'est l'étude la plus longue et la plus complète sur le sujet jusqu'à maintenant. 2 à 3 tasses de café par jour, 1 à 2 de thé. Les résultats indiquent qu'une consommation modérée de caféine, c'est-à-dire 2 ou 3 tasses de café ou 1 ou 2 tasses de thé par jour, est associée à la baisse du risque de démence et de déclin cognitif la plus importante, jusqu'à 20%. Une consommation plus faible de caféine était-elle aussi associée à des bénéfices positifs pour le cerveau, mais dans une proportion moindre? Et chez les personnes qui boivent de grandes quantités de café, jusqu'à 5 tasses par jour, le risque de démence était 18% plus bas que ceux qui buvaient peu ou pas de café. La caféine pourrait donc jouer sur 2 niveaux, le déclin cognitif d'abord, puis sur la démence, car il s'agit bien de 2 notions différentes. Le déclin cognitif reflète les premiers changements de la mémoire et de la pensée, plusieurs années avant que la démence ne soit diagnostiquée. La démence, elle, est un stade plus avancé quand les déficiences deviennent trop sévères et qu'elles affectent le quotidien, détaille Yuxi Liu, autrice de l'étude et chercheuse à l'École de santé publique de l'Université d'Harvard. Concrètement, le déclin cognitif se manifeste par une baisse des capacités mentales, comme l'oubli d'informations récentes, la désorientation dans des lieux connus, des difficultés à trouver ses mots ou à gérer des tâches familières. Lorsque le déclin est installé, on parle alors de démence. Peu importe le stade auquel on se trouve, la caféine semblerait donc ralentir le déclin chez les participants à l'étude. La caféine, plus forte que la génétique. Plus frappant encore, la consommation de caféine surpasserait le déterminisme génétique. En effet, certains gènes comme APOE4 sont associés à un risque beaucoup plus élevé de déclin cognitif. Une seule copie de ce gène dans l'ADN peut élever le risque de développer un Alzheimer de 2 à 3 fois. Et pourtant, malgré la présence de ce gène, la caféine a continué de montrer un effet protecteur. C'est très encourageant, reconnaît Yuxi Liu. Cela suggère que des facteurs liés au style de vie peuvent quand même jouer un rôle, même chez les personnes présentant un risque génétique élevé. Cela ne veut pas dire que le risque génétique est éliminé, mais que plusieurs facteurs entrent en jeu. En l'état, impossible de conclure que la caféine protège du déclin cognitif. Les chercheurs n'ont d'ailleurs pas identifié de possibles mécanismes pour expliquer cette association. Il s'agit d'une étude observationnelle. Nous pouvons identifier des associations fortes, mais pas établir de lien de cause à effet, explique la chercheuse. Il faudrait pour cela mener un essai randomisé ou encore étudier plus précisément par quel mécanisme biologique la caféine pourrait protéger de la démence. Cela dit, les chercheurs ont l'intuition d'être sur une piste intéressante, car pour une fois, les résultats font bien une différence entre les personnes qui boivent du vrai café et celles qui boivent du café décaféiné. Chez ces dernières, aucun bénéfice cognitif n'a été constaté, renforçant l'hypothèse que la caféine joue bien un rôle. Pour aller plus loin, l'équipe cherche maintenant à mieux comprendre quel mécanisme biologique pourrait être lié à la consommation de caféine. Au cœur de ces travaux, le microbiote ou l'ensemble des organismes présents dans notre intestin. Il pourrait jouer un rôle central dans la façon dont la caféine est métabolisée. En attendant les réponses à ces questions, les amateurs de thé et de café peuvent continuer à apprécier leur boisson chaude qui semble être un allié sur le long terme. C'était « Boire du café et du thé protégerait de la démence tout au long de la vie ». Un texte de Coralie Lemke, paru le 16 février 2026 dans Science et Avenir.
Révolution culturelle acadienne, une nouvelle vague qui change tout. Un texte de Nicolas Jean, directeur général Acadie et Francophonie, publié le 9 janvier 2026 dans le courrier de la Nouvelle-Écosse. Depuis quelques années, on le sait, quelque chose de nouveau se passe dans la culture acadienne. Les artistes sont en première ligne de ce mouvement. Ce n'est pas un simple renouveau artistique ni un phénomène de mode. Ce que l'on observe dans la musique, l'humour, le drag et les arts populaires ressemble à un mouvement plus profond, un changement de paradigme sur ce que signifie être acadien aujourd'hui. Des artistes comme les Hey Babies, Petit Béliveau, Lisa Leblanc, Samy Landry et une constellation d'autres incarnent une nouvelle esthétique, une nouvelle identité assumée qui rompt avec les codes dominants du passé. Lors de l'ouverture de la saison 6 de Canada's Drag Race, nous avons vécu un grand moment d'affirmation identitaire. Samy Landry s'est présenté en mettant de l'avant son accent acadien et en affirmant que la francophonie canadienne est bien plus large que le Québec. Ce n'est pas une anecdote, il s'agit d'un acte fondateur. Dans ce mouvement, l'accent, la langue et les références locales ne sont plus un handicap à camoufler. Ils deviennent le cœur même du geste artistique. Des chansons parlent de banjo, de village, d'épicerie, de pêche, de vie rurale, sans exotisme ou nostalgie forcée. Le vernaculaire n'est plus un folklore figé, c'est une manière de vivre et de créer. Cette esthétique du quotidien brise un tabou ancien. On peut être pleinement acadien, rural, chaotique, drôle et à la fois moderne, pertinent, puissant. On le voit avec des artistes comme Lisa Leblanc qui brillent sur la scène internationale, bien au-delà de l'Acadie. On espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Une des forces de ce mouvement est sa capacité à jouer avec l'identité plutôt qu'à la sacraliser. C'est pas l'Acadie héroïque, monumentale, tragique des récits historiques. C'est une Acadie imparfaite, ludique, audacieuse. Le rire devient un outil de libération. On rit des stéréotypes, on rit des complexes, on rit de soi-même et on rit ensemble. Ce n'est pas une fuite vers l'avant, mais une véritable appropriation symbolique. Musicalement, scéniquement ou sur une toile, tout se mélange. Des instruments traditionnels, du drag, du folklore, du rap, du rock, de l'électro, du street art. L'identité n'est plus une pureté à préserver, mais un matériau à réinventer, à métisser. On est très proche de la pensée d'Édouard Glissant. La culture existe dans la relation, pas dans l'isolement. Cette génération crée donc une Acadie à son image, créolisée, hybride, poreuse aux influences d'ici et d'ailleurs. Il faut aussi noter que l'apparition de figures queer et des dragues dans l'espace culturel acadien est un tournant majeur. À travers l'humour, la provocation et la célébration, l'Acadie s'ouvre à d'autres imaginaires. Samy Landry n'est pas un épiphénomène, c'est un symbole. Le fait qu'un drag puisse mobiliser des récits acadiens avec un succès populaire signifie que l'identité n'appartient plus à un seul modèle. L'Acadie cesse d'être définie uniquement par une lignée familiale, religieuse ou traditionnelle. Elle devient plurielle, inclusive, elle donne l'exemple. Ce qui semblait trop local devient universel. Le complexe d'infériorité linguistique se renverse. La langue n'est plus une frontière à défendre, mais là aussi un terreau fertile propice à la création. Ces artistes ont pour point commun de ne pas demander la permission d'exister. Ils existent avec élan et avec intention surtout, dans le cadre d'une démarche construite, réfléchie. Ce n'est pas la lutte pour la survie, mais la célébration d'un présent et surtout la construction d'un futur. Peut-on alors parler de révolution culturelle ? Selon le sociologue et philosophe Edgar Morin, une révolution culturelle est un bouleversement des visions du monde, des valeurs et des modes de vie qui transforme la manière dont une société se pense et se représente. Tous ces artistes redéfinissent l'Acadie selon moi. Moins solennelle, moins sacrée, mais plus ludique, hybride, inclusive, connectée aussi. On assiste à un bousculement des imaginaires. Ils ouvrent un espace où l'on peut être acadien, respectueux de ses origines, rural, mais aussi numérique, moderne, fier de sa francophonie, tout en étant chaotiquement plurilingue. Ce n'est pas une rupture avec l'héritage, c'est une réinvention. L'Acadie n'est plus seulement une mémoire, c'est une puissance créative, un moteur. L'ancienne garde l'a bien compris et nous avons vu, au cours des dernières années, des passages de flambeaux symboliques, notamment au CMA 2024. Rappelez-vous les Hey Babies ou Sylvie Boulian sur scène avec 1755 ou encore Vicky Devaux avec Ronald Bourgeois. Il est essentiel de comprendre que ce à quoi nous assistons n'est pas seulement un renouveau, mais une révolution. Cette nouvelle génération a besoin de notre soutien à tous. Elle doit se sentir portée par la communauté acadienne dans son ensemble et par des gestes concrets, que ce soit en achetant un disque, une œuvre ou en participant à un concert. La révolution en cours a un grand pouvoir si on lui laisse tout l'espace nécessaire pour se développer, celui de concilier tradition et modernité, celui de créer un pont entre des générations qui peuvent avoir de la difficulté à se parler. Le renforcement et la survie de l'Acadie en dépendent. En parlant de pont, on m'a partagé il y a peu de temps cette citation d'Octavio Paz, prix Nobel de littérature en 1990, tout à fait appropriée. Entre la tradition et la modernité, il y a un pont. Quand ils sont mutuellement isolés, la tradition stagne et la modernité s'évapore. Quand ils sont joints, la modernité insuffle une nouvelle vie dans la tradition et la tradition répond en fournissant profondeur et gravité. Alors, vive l'Acadie, vive la Révolution. C'était « Révolution culturelle acadienne, une nouvelle vague qui change tout », un texte de Nicolas Jean, directeur général, Acadie et francophonie, publié le 9 janvier 2026 dans le Courrier de la Nouvelle-Écosse.
Les shots de gingembre sont-ils bénéfiques? Un texte de Florence Dancause, paru le 25 janvier 2026 dans la presse. La saison des rhumes et grippes est loin d'être finie, et vous avez vu ce fameux jus appelé shot de gingembre à l'épicerie qui affirme renforcer le système immunitaire. Vous êtes tenté de les essayer, mais ces derniers qui promettent de nombreux bienfaits peuvent-ils réellement améliorer notre santé? Anti-inflammatoires, meilleure digestion, immunité renforcée ou même un kick pour être bien réveillé. Ces shots de gingembre vendus par de nombreuses entreprises semblent être la solution à plusieurs maux. On a vu ça apparaître au début des années 2000. On était vraiment dans le mouvement de la détox, se rappelle Annie Ferland, diététicienne nutritionniste. Maintenant, les shots visent plutôt le bien-être. On ne peut pas booster le système immunitaire. C'est un gros mythe, affirme d'emblée Clémence Desjardins, nutritionniste et candidate au doctorat à l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels de l'Université Laval. Plusieurs shots de gingembre possèdent des doses élevées de vitamine C, longtemps associées à la prévention du rhume, mais dont les bienfaits allégués ont été réfutés. Les symptômes de rhume ne peuvent pas non plus être éradiqués par ces jus. Il peut y avoir un certain effet décongestionnant avec le concentré de gingembre. Certaines entreprises ajoutent même du piment de Cayenne pour cela. Mais l'effet reste très temporaire, mentionne Clémence Desjardins. Pour ce qui a trait à la digestion, des études ont montré que le gingembre a des effets antiémétiques, donc ça soulage les vomissements et la nausée dans certaines situations, explique Clémence Desjardins. Or, aucune recherche n'a établi de lien avec un bon transit, souligne-t-elle. Remplacer son café du matin ou de l'après-midi par un shot de gingembre? C'est la suggestion d'entreprises comme Dose. Le jus, qui a un goût piquant et fait souvent grimacer, peut donner une sensation d'éveil, mais il n'y a aucun effet physiologique, évoque Annie Ferland, aussi fondatrice de Science et Fourchette, une plateforme qui parle de nutrition. Pour de grands consommateurs de café, ça peut être une solution de remplacement. Or, un verre d'eau ou un thé font aussi bien l'affaire, ajoute Clémence Desjardins. Des études peu applicables. Les entreprises s'appuient souvent sur des recherches pour revendiquer les bienfaits de leurs produits. Or, dans ces études-là, on isole une molécule, souvent le gingérol, qu'on va concentrer à des doses pharmacologiques. Elles vont peut-être avoir un effet chez des animaux, mais on est très loin de notre jus de gingembre, affirme Annie Ferland. Le gingembre est souvent combiné avec d'autres ingrédients comme le curcuma, le poivre noir ou le citron, dont les entreprises vantent également les mérites. Le curcuma, par exemple, a un principe actif, la curcumine, qui a des effets anti-inflammatoires, mais encore là. C'est avec des doses bien concentrées en laboratoire, indique la nutritionniste Clémence Desjardins. L'entreprise québécoise Loop nuance sur son site web les mérites de ses shots de bien-être booster au gingembre, curcuma, échinacée et citron. Les jus Loop ne contiennent pas une quantité suffisante des ingrédients mentionnés pour atteindre l'effet physiologique présenté dans la littérature scientifique, est-il écrit. Pour Annie Ferland, prendre un shot de gingembre se révèle être un micro-geste qui a peu d'impact sur la santé. Et rien ne bat ou ne remplace de bonnes habitudes de vie, rappelle-t-elle. C'est du marketing qui est très compatible avec Instagram et TikTok, note la diététicienne nutritionniste. On règle un problème en une fraction de seconde. C'est sans oublier les prix élevés de ces doses de jus, qui se détaillent à environ 3 $ la bouteille de 60 millilitres. Mais rien n'empêche de cuisiner et de consommer le gingembre dans son alimentation, rappelle-t-elle. Le petit goût piquant est vraiment intéressant dans les recettes. C'était « Les shots de gingembre sont-ils bénéfiques ?» un texte de Florence Dancause, paru le 25 janvier 2026 dans La Presse.
Que vous devriez savoir sur la coloscopie. Un texte commandité paru le 16 février 2026 dans La Presse. Par appréhension ou par inconfort anticipé, les gens qui n'ont jamais passé de coloscopie redoutent souvent cet examen. Or, il s'agit d'un des outils médicaux les plus efficaces pour évaluer la santé du côlon, surtout chez les personnes à haut risque de cancer colorectal. Voici dans quel cas cet examen pourrait être recommandé et comment il se déroule habituellement. Coloscopie ou colonoscopie. Bien que répandu au Québec, le terme colonoscopie est un calque de l'anglais « colonoscopy ». L'Office québécois de la langue française recommande plutôt l'emploi de coloscopie. À quoi sert une coloscopie? Votre médecin pourrait demander une coloscopie afin d'identifier la cause de divers symptômes, dont la présence de sang dans les selles, des douleurs abdominales, une perte de poids non planifiée, ainsi que des troubles intestinaux persistants ou inexpliqués. Cet examen endoscopique permet d'observer directement l'intérieur du gros intestin avec davantage de précision que les techniques d'imagerie médicale courantes. Les personnes à haut risque de cancer colorectal peuvent également avoir recours à la coloscopie à des fins préventives. Votre médecin de famille peut évaluer votre risque personnel en fonction de votre âge, de vos antécédents familiaux, de votre état de santé et de prédispositions génétiques comme le syndrome de Lynch. Dépistage systématique dès 45 ans? L'American Cancer Society recommande de commencer le dépistage du cancer colorectal dès l'âge de 45 ans chez les personnes présentant un risque moyen, la coloscopie étant l'une des options suggérées. Pour sa part, la Société canadienne du cancer recommande plutôt aux personnes de 50 à 74 ans, n'étant pas à haut risque de cancer colorectal, d'effectuer une analyse des selles tous les 2 ans. En présence de sang, une coloscopie pourrait alors être jugée pertinente. L'organisme canadien considère que cette approche contribue à réduire de façon substantielle la mortalité liée au cancer colorectal, tout en comportant moins de risques de complications que les examens invasifs. Comment se préparer à une coloscopie? Votre médecin vous communiquera les consignes à suivre pour que votre gros intestin soit aussi propre que possible. Cette préparation permet d'obtenir des images nettes lors de l'examen. Généralement, vous devrez éviter les aliments riches en fibres pendant quelques jours et vous en tenir à une diète liquide la veille de l'examen. Vous devrez également prendre la préparation laxative prescrite, généralement l'après-midi ou le soir précédant votre rendez-vous, afin de nettoyer votre intestin de toute trace d'aliments. Il est préférable de vivre ce moment à la maison en raison des visites répétées à la salle de bain. Comment se déroule une coloscopie? Vous serez en position couchée sur le côté, les genoux repliés contre vous. Un sédatif vous sera offert pour favoriser la détente et réduire l'inconfort pendant l'examen. Votre médecin insérera par voie rectale un tube souple muni d'une caméra et d'éclairage, puis fera avancer le dispositif lentement en analysant les images diffusées sur un écran. De l'air ou du dioxyde de carbone sera soufflé afin de mieux observer les parois intestinales. Si votre médecin remarque des anomalies au cours de l'examen, il sera possible d'intervenir immédiatement. Par exemple, les échantillons de tissu pourront être prélevés pour analyse et les polypes, des excroissances pouvant évoluer avec le temps, seront retirés sur le champ. Votre médecin aura à nouveau l'occasion d'observer l'ensemble de votre gros intestin lors du retrait de l'appareil. L'examen en soi dure habituellement de 15 à 45 minutes selon le déroulement de l'intervention et l'établissement de santé. Quoi surveiller ensuite? Vous demeurerez sous surveillance auprès de l'équipe médicale pendant 30 à 60 minutes qui s'assure ainsi que vous vous remettez bien de l'intervention. Si un sédatif est utilisé, vous devrez obligatoirement compter sur une accompagnatrice ou un accompagnateur pour le retour à la maison et pendant les 24 heures suivantes. Vous ne devriez ni conduire ni prendre de décisions importantes pendant cette période. Votre médecin communiquera avec vous pour discuter des résultats de l'examen et des prochaines étapes ou des suivis à prévoir. C'était tout ce que vous devriez savoir sur la coloscopie. Un texte commandité paru le 16 février 2026 dans La Presse.
Obligés de dévoiler leur NIP. Un texte de Louis-Philippe Messier paru le 3 mars 2026 dans le Journal de Montréal. La généralisation des écrans tactiles à 100% est un véritable cauchemar pour les individus malvoyants. Incapables d'utiliser les terminaux à écran plat, des malvoyants sont contraints de donner leur NIP pour payer, puis d'annuler la carte compromise. C'est arrivé à Pascal Dussault, il y a 1 an et demi dans un restaurant du Vieux-Longueuil. Je venais de manger un tartare de saumon et je devais payer la note, se souvient la femme de 60 ans, qui a perdu la vue à l'âge de 17 ans à la suite d'un décollement de la rétine. Le paiement automatique sans contact n'a pas fonctionné. Il fallait insérer la carte et composer le code. Or, c'était sur un écran tactile, plat, inutilisable pour Madame Dussault. Si j'avais été avec une amie, elle aurait payé et je l'aurais remboursée ensuite. Mais j'étais seule, relate-t-elle. Nouveaux écrans. J'ai alors donné mon NIP à l'employé et j'ai annulé ma carte ensuite, confie celle qui a trouvé l'expérience humiliante et qui est par la suite devenue la présidente du regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, RAMMM. Depuis sa mésaventure, elle prend des précautions. Je traîne toujours sur moi, depuis, une somme en argent comptant pour me couvrir. Mais de plus en plus de commerces n'acceptent pas l'argent comptant, déplore Madame Dussault. Je me suis donc aussi procuré une carte de secours avec juste un petit montant disponible dessus pour minimiser les risques, ajoute-t-elle. Les terminaux électroniques traditionnels, munis de cadrans à boutons, sont utilisables, même sans voir. Le chiffre 5 au centre est identifiable par un bouton braille. Les boutons acceptés, corrigés, refusés, à droite, arborent des reliefs de forme géométrique. J'ai récemment choisi le commerce où j'ai acheté ma nouvelle sécheuse parce qu'il y avait un terminal à boutons que je pouvais utiliser, raconte André Vincent, 80 ans, à qui une rétinite pigmentaire a graduellement fait perdre la vue. J'ai renoncé à plusieurs commerces parce qu'ils avaient des terminaux inutilisables pour moi, ajoute-t-il. Progrès ou régression? Monsieur Vincent déplore que les terminaux à boutons disparaissent au profit des écrans tactiles. C'est présenté comme une évolution technologique, mais nous, ça nous fait régresser, rage-t-il. Après un séjour dans une auberge en Montérégie récemment, au moment de payer, Monsieur Vincent s'est retrouvé devant un terminal à écran plat. Heureusement, ils ont accepté un virement Interact, ce que je peux faire sans donner mon NIP à un étranger, se souvient ce résident de la Montérégie qui est venu à Montréal pour témoigner devant le journal. Commerçant interpellé. Dans le cadre de la semaine de la canne blanche, le RAAMMM a publié ses recommandations de terminaux accessibles aux commerçants. C'est presque un Québécois sur 20 qui a une limitation visuelle, ce qui veut dire 320 000 personnes, rappelle Sandrine Bastarache, conseillère en affaires publiques. Un terminal électronique inutilisable pour 5 % de la clientèle, ça pourrait faire perdre des transactions, commente-t-elle. C'était Obligés de dévoiler leur NIP, un texte de Louis-Philippe Messier, paru le 3 mars 2026 dans le Journal de Montréal.